Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Stadium Ligue 1, le podcast qui parle du meilleur championnat d'Europe, du monde et de la galaxie. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la 15e journée de Ligue 1 Uber Eats. Et oui, on se rapproche doucement de cette moitié de championnat. Et pour m'accompagner, j'ai mes deux acolytes qui étaient déjà avec moi la semaine dernière. On va commencer par toi, Steve. Steve, comment tu vas ?
Salut Desti, salut Max. J'anticipe l'annonce de Max, pardon. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et très heureux de se retrouver.
Bon, comme on disait un peu plus tôt, on va continuer à taper sur Marseille, puisqu'apparemment, ça, plus on dit du mal d'eux, plus mieux ils se portent, apparemment.
Ah oui, la fois, là, Aubameyang, comme dit Vitinha, est très très chaud, donc tant mieux.
Ouais, on va parler lui aussi de son élocution, mais bon. Bref, et toi, Max, comment tu vas ?
Salut Dusty, salut Steve, bonjour à tous. Bah écoute, ça va, hein, ça va. Encore une belle journée de Ligue 1 qui nous attend, donc avec impatience, on va regarder ça.
Ouais, nickel. Bon, comme on disait, pareil, ça nous a pas trop. Enfin, en tout cas, mon pronostic ne nous a pas trop réussi pour Rennes. En même temps, je pense que les auditeurs commencent à avoir un peu l'habitude. Hein. Moi, je suis le porte-poisse. Hein. Quand je dis quelque chose, faut faire le contraire. Mais bon, ça va bien se passer. Alors.
Il y a déjà pour le PSG, donc c'est vrai que là, faut continuer. À chaque fois, il faut miser contre Dusty et c'est de l'argent assuré.
Alors, aujourd'hui, on a sélectionné deux matchs qui semblent plutôt intéressants. Donc, Nice-Reims, dans un premier temps, et Rennes versus Monaco. Donc, on va commencer par notre premier match. Nice-Reims, alors juste pour vous remettre un peu dans le contexte du championnat, donc on a Nice qui est actuellement deuxième du championnat, donc toujours derrière le PSG à 4 points. De l'autre côté, on a Reims qui est sixième du championnat avec 23 points. Alors comme on le sait, Nice, fait extraordinaire, a connu sa première défaite la semaine dernière face au FC Nantes de Gourvennec. Hein, Gourvennec qui venait d'arriver sur le banc du FC Nantes. Hein, donc très belle prestation du FC Nantes. Et de l'autre côté, Reims a gagné 2-1 face à Strasbourg. Alors c'était plus difficile, mais voilà, ils ont su faire le dos rond, être efficaces et repartir, en tout cas engranger ces 3 points à la maison. Donc je commence direct avec vous, on va réagir sur cette première défaite de Nice. Comment vous pensez que Nice va réagir à cette première défaite ? Ils affrontent un stade de Reims qui est certes en perte de vitesse, c'est plus difficile pour eux en ce moment. Ils sont à 2 victoires, 2 défaites et 1 nul sur leurs 5 derniers matchs. Hein. On sent que les matchs sont plus difficiles pour eux, mais en face, on a Nice qui a connu sa première défaite. On va commencer par toi, Max. Toi, comment tu penses que Nice va réagir à cette première défaite ?
Bah, je pense qu'une défaite en 14 journées, il y a rien de dramatique. Hein. Donc c'est vrai que on a un Nice qui est très compétitif depuis le début de saison, un Nice qui est beau à voir jouer. Donc perdre, je pense qu'ils savaient qu'ils allaient pas aller jusqu'à la 38e journée sans perdre. Je pense qu'ils savaient qu'il allait avoir au moins une défaite dans la saison. Elle est arrivée contre Nantes. Après, voilà, c'est aux joueurs de rester mobilisés et de jouer le football qu'ils savent jouer. Parce que c'est vrai que c'est agréable à voir jouer. Moi, je m'en fais pas trop pour Nice parce que c'est vrai que c'est un effectif assez sympathique avec un beau style de jeu. Donc, je pense qu'ils vont pouvoir se relever malgré le fait que ça soit une équipe de Reims qui est assez... assez belle à voir jouer avec le style justement de son entraîneur. Donc ça devrait être un match très plaisant, je pense, à voir.
Ok. Toi, quel est ton avis, toi, Steve ? T'es du même avis que Max ? Tu penses que, voilà, petite défaite, rien de grave, on passe à autre chose, the show must go on ?
Ouais, tout à fait. Parce que ce Nantes-Nice, c'est une défaite un peu imméritée pour Nice. Sur le but nantais, Boulka relance le ballon sur Mollet qui est à 2 cm des buts. Il a juste à la mettre au fond des filets. Certes, ils ont eu quelques tirs, ils ont tapé la barre avec Augusto et ils sont Ils sont très dangereux sur les, ils ont été très dangereux sur les coups de pied arrêtés, mais il ne faut pas oublier la performance XXL de Lafond, qui fait 6 arrêts, qui fait des arrêts exceptionnels. Tu avais l'impression que rien ne pouvait passer ce jour-là, en fait. C'était You shall not pass. Il n'y avait rien qui passait. Tu aurais pu mettre Benzema en face. Le mec, il marquait pas. Lafond était dans, voilà, il était dans un jour à lui. Et il fait 6 arrêts. Il est MVP du match. C'est une défaite un peu imméritée, mais je me fais pas trop de problèmes sur Nice parce que on connaît les limites de Nice. On sait ce que Nice peut faire, ce que Nice ne peut pas faire. Donc, inquiet, non. Et est-ce qu'ils vont se relancer? Oui. Est-ce que ça va être un match intéressant? Très intéressant.
Bah, moi, je te trouve un peu dur quand même avec Nantes, hein. Moi, je trouve que Nantes, ils ont quand même proposé une belle partition pour une équipe qui venait de changer de coach. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que bizarrement, on a eu un côté droit de la défense niçoise qui était très en difficulté tout le long du match. Que ce soit, c'est Todibo qui était. Pardon, Todibo qui était aligné du côté 3 de la défense. On a vu qu'il a eu beaucoup de mal face à Simons et Rosario aussi. Simons qui a été très remuant sur ce, pardon ce côté côté gauche pour Nantes et côté droit pour Nice. Et tu parlais de limite justement de Nice. Est-ce que justement c'est la première fois que Nice est menée au score. Est-ce que du coup, ce serait pas un peu leur limite dans le sens où Nice est une équipe, si elle ne marque pas la première, eh ben derrière c'est, elle ne sait pas soit revenir au score ou soit se surélever pour être meilleure. Parce qu'on sait que c'est une équipe qui aime gagner avec des marges très fines, qui a eu beaucoup de 1-0. Est-ce que c'est pas ces limites, justement, t'en parlais rapidement. Est-ce que ce serait pas les limites de ce Nice? Qu'est-ce que t'en penses, Max? Alors, c'est peut-être moi qui m'enflamme, hein, mais
Après, comme je l'ai dit, hein, c'est vrai que ça peut arriver. Il y a eu un petit peu de mal côté droit, c'est sûr. On l'a vu lors du match. Après, il y a des joueurs sur les ailes qui peuvent rentrer, donc ils peuvent essayer aussi un peu de changer les choses. Il y a Lautomba qui peut jouer sur le côté. Il y a aussi le petit, il y a aussi Romain Perrault. Bon, Youssef Attal, on le reverra plus, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs pour le côté droit, donc. Si besoin, je pense qu'il changera quelque chose lors du match. Après, il a souvent mis quand même le même 11 de départ depuis le début de saison parce que ça marche quand même très bien. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à changer. Quand un 11 marche bien, on ne change pas forcément. Après, là, contre Reims, ça sera entre guillemets un deuxième test pour voir si c'est un accident ou si on va dire que c'est le début d'un changement. Est-ce qu'il faut faire un changement ou alors est-ce qu'il va falloir rester? C'était un simple accident contre Nantes.
Ok,
Comme
tu voulais
tu l'as
dire
dit,
quelque chose, Steve? Vas-y, vas-y.
comme tu l'as dit, les limites, on les connaît. Et le truc, c'est que Nice, cette année, même la saison dernière de mémoire, ils ont toujours gagné leur match un peu, tu sais, un peu de léger, quoi. Un écart d'un but, un écart de deux buts. Nice, c'est la première défense, la meilleure défense de Ligue 1, avec 5 buts encaissés. Mais c'est la 11e meilleure attaque. Ils sont derrière Lorient qui est 16e. Et ils ont juste 3 buts de plus. Lyon, dernier du championnat. Ils gagnent par des 1-0, 2-1. En fait, ce genre de problème avec Nice qu'on a, c'est qu'ils ont pas, ils ont du mal à finir les occasions. Et on l'a vu ce week-end contre Nantes. Lafond était dans un grand match. Ça n'enlève rien au mérite de Nantes qui a fait un très beau match. Hein. Moses Simon a fait un très bon match. Mollet a fait un très bon match. Augusto a fait un excellent match. Mais il ne marque déjà pas beaucoup. Et quand tu as un très grand gardien en face, c'est sûr que c'est difficile de gagner à zéro et de barricader après comme tu sais le faire derrière. C'est ça en fait où sont les limites de Nantes, de Nice, pardon.
Ok,
Ah,
c'est vrai.
excuse-moi, c'est vrai
Vas-y,
qu'ils
vas-y.
avaient changé d'attaquant et qu'ils ont tenté Guessant un match titulaire directement parce que c'est vrai que offensivement, il y a des joueurs qui ont de la qualité, mais en fait, ça finit pas. C'est Mofi le meilleur buteur avec 4 buts, mais on voit que même si Boga est percutant, même si Laborde fait parfois des bons matchs, en fait, ces trois joueurs, Boga, Laborde, Mofi, qui sont, on va dire, les trois titulaires indiscutables. Bah, à eux trois, c'est uniquement 8 buts. Donc, pour le deuxième du championnat, c'est très léger. Donc, heureusement qu'il y a une très bonne défense, on va dire, pour Nice.
Deuxième du championnat, 11e meilleure attaque. C'est vraiment ouf. C'est un peu la contradiction avec Nice. C'est que voilà, ils sont derrière Lorient, ils sont derrière des clubs on se demande est-ce que le coach va pas être viré. Mais ils sont quand même deuxième du championnat et c'est ça qui est fort en fait. C'est la défense gagne des matchs. Et ben eux, cet adage leur va bien.
D'ailleurs, petite stat, Nice n'a pris qu'un seul but à domicile pour l'instant. Ce qui est quand même assez impressionnant. C'était, il me semble, le premier match de la saison. Donc, certes, défense de fer. En face, ils vont rencontrer une équipe rémoise qui me semble qu'il y a une légèrement meilleure attaque que Nice. Le Stade de Reims, ouais, ils sont à 20 buts pris, mais très mauvaise défense avec 19, 20 buts mis et 19 buts pris. C'est la septième pire défense de Ligue 1. Je crois qu'ils sont égalité avec Monaco. Moi, je trouve qu'en ce moment, alors c'est peut-être la chance aussi de Nice, c'est que le stade rémois, on va dire qu'il est, c'est plus difficile pour eux en ce moment. T'as l'impression que les matchs, bah, il faut vraiment aller les chercher. On voit contre Strasbourg, Strasbourg qui n'est pas une équipe extraordinaire depuis le début de la saison. Ça a été quand même assez compliqué d'aller chercher cette victoire. Alors ils le font 2-1 et c'est pas catastrophique non plus, hein. Comme je disais, en ce moment ils sont sur 2 victoires sur les 5 derniers matchs, 2 victoires, 2 défaites et un nul. Mais comment dire, dans la réalisation, c'est beaucoup plus difficile. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que le meilleur buteur à Reims, c'est toujours Thomas. Est-ce que ça aussi, c'est pas inquiétant? Est-ce que voilà, Reims, alors on va pas parler de limite, mais voilà, est-ce qu'ils n'étaient pas en surchauffe? Et là, bah, ils sont en train de digérer leur début de saison. T'en penses quoi, Steve?
Ah si, ils sont en sur-régime mais les stats avancées le montrent. J'avais vu la stat tout à l'heure en préparant le podcast. Je ne sais plus contre quelle équipe, mais ils gagnent 2-1 le match et ils sont à 0,5 XG. En fait, ils arrivent à marquer des buts alors qu'ils n'ont pas vraiment les occasions de base. Ils arrivent à gagner des matchs alors qu'ils ne devraient pas spécialement non plus les gagner. Après, pour revenir un peu sur le calendrier que Reims a eu précédemment, c'est un peu normal d'être dans une mauvaise passe quand tu enchaînes Paris à l'extérieur et qu'après tu vas tu non quand tu reçois PSG pardon et que tu te déplaces à Rennes c'est quand même deux grosses équipes donc c'est un peu normal de que Reims perde 6 points ici c'est pas la catastrophe tu vois c'est pas très inquiétant à ce moment-là ce qui est un peu plus inquiétant par contre c'est le match contre Strasbourg pardon comme tu l'as dit ils jouent très bien, ils tiennent le score et après sur une stupide erreur défensive, ils prennent un but à la fin de match sur penalty. Est-ce que la limite du côté rémoise n'est pas mentale? Dans le sens où est-ce qu'ils ont le truc de se dire, ben on est l'outsider, on surperforme, mais est-ce que faut pas lâcher en fait? Faut continuer à se battre, il faut continuer à jouer et essayer de produire le football. Est-ce que la limite n'est pas mentale? Est-ce que dans la tête à un moment ça va pas lâcher? Là est le problème. Mais après, côté Rémois, les problèmes sont connus hein, aussi. Hein, Abdelhamid et Agbadou, pardon, qui ne savent pas gérer la profondeur. Ils sont un peu perdus quand ça part dans leur dos. Ils ont une très mauvaise gestion des coups de pied arrêtés. Ils sont très très mauvais sur coups de pied arrêtés. D'ailleurs, ces largesses défensives ont été très, très visibles contre Rennes. Ils se font prendre dans le dos, mais 45 fois dans le match, je crois. Donc, est-ce que c'est une équipe dans le dur? Oui et non. Parce que le calendrier n'a pas aidé, mais on verra bien comment ils vont jouer contre cette équipe niçoise.
Ok. Toi, t'en penses quoi, Max? Équipe dans le dur ou juste petite, voilà, c'est la petite phase de décembre?
Ben, comme tu l'as dit déjà au début, c'est que Reims prend des buts. Et je trouve que c'est pas forcément. C'est pas forcément son habitude, parce que moi j'ai l'habitude de voir un Reims plutôt très fort défensivement et avec du mal offensivement. Je me souviens, j'ai souvent été à Reims auparavant, et c'est vrai qu'il y avait à chaque fois bah, Dissassi, Woodfess, c'était très très compliqué d'aller battre Reims et d'aller mettre des buts à Reims automatiquement. Et c'est vrai que cette année, on voit un changement. On voit un changement. Donc, ils ont de la chance et que voilà, il y a un coach qui donne du jeu, donc c'est agréable à voir jouer. Un peu comme Nice, c'est pour ça que je pense que ça va être un beau match. Mais c'est offensivement, ouais, il y a des soucis. Donc, je trouve que Reims, dans tous les cas, ça, c'est pas une équipe pour jouer, on va dire, la Coupe d'Europe. Même si pour une fois, ils ont fait un mercato qui est assez intéressant avec trois recrues au début de saison à plus de 10 millions d'euros. C'est vrai que c'est rare concernant le stade de Reims. Et par rapport au stade, je trouve que ceux qui sont venus et qui devaient mettre des buts, ça porte pas forcément leurs fruits. On voit Keto Nakamura, c'est 9 matchs un but. Darami, c'est 13 matchs 2 buts. Donc pour des joueurs qui ont été achetés plus de 10 millions d'euros par le stade de Reims, c'est pas dans ses habitudes et justement on s'attend à un autre rendement, on va dire. Et ils ont pris des buts alors que justement ils ont pris aussi Okoumou en défense centrale, pour ça qu'ils jouent à 3. Mais c'est pas forcément, on va dire, optimal. La meilleure recrue, on va pas se mentir, c'est Teddy Thomas.
Ouais, complètement, puisque les deux meilleurs buteurs, c'est Thomas avec 4 buts et Richardson avec 3 buts, qui sont quand même deux milieux de terrain. Et ensuite, t'as Darami avec 2 buts. Et le quatrième, ma grande surprise, c'est Abdelhamid avec 2 buts. Donc, c'est ça qui est aussi inquiétant, c'est qu'au final, enfin, moi j'ai l'impression qu'on va quand même rencontrer deux équipes qui n'ont pas forcément de gros buteurs, chacun de leur côté. Bon, alors peut-être que l'autre du côté. Niçois, les attaquants sont un peu plus affirmés par rapport aux défenseurs, mais ça reste pas non plus la folie. Est-ce que ça va pas être le match, le premier qui marque, qui gagne, au final? Alors, vous en pensez quoi? En fait, comment vous imaginez ce match? Steve?
ouvert mais très peu de buts. Ça va être un match avec beaucoup d'action, je pense. Ça va être un match où on va avoir deux équipes qui se rendent coup pour coup. Mais d'un côté, t'as un Nice qui a du mal à finir les occasions. Et d'autre côté, t'as un Reims qui peut être faible défensivement, mais que devant, ça roule relativement bien. Même si, comme on l'a dit, les meilleurs buteurs sont les milieux centraux. Donc je m'attends à un match très ouvert, mais avec peu de buts. Je m'attends à un nul 1-1 ou un truc du genre, quoi.
Ok, donc toi ton prono c'est 1-1.
Ouais, un.
Ok, et toi Max, tu t'attends quoi comme match et quoi ton prono?
Alors moi je m'attends à un beau match comme je l'ai dit parce que c'est vrai qu'il y a deux équipes qui jouent bien. Après on a vu que il y avait peu d'attaques à Nice, une très bonne défense, qu'il n'y avait pas forcément une attaque très forte à Reims et pas forcément une très bonne défense. Donc moi je dirais carrément un 0-0, mais un beau 0-0. Un beau 0-0 avec du
Et
jeu, avec des
d'ailleurs, en
occasions,
2023, c'est parti
mais
ça,
avec
hein.
deux équipes qui ont du mal à finir les actions. Donc, voilà, c'est comme ça que je m'attends à un match. Mais quand même plaisant, parce que c'est vrai qu'il y a de très beaux 0-0 à voir.
Non,
Bah,
pas de 0-0.
saison 22-23, saison 22-23, ils s'affrontent deux fois et deux fois c'est 0-0.
C'est vrai.
Parce que sur les six derniers Nice-Reims, t'as une victoire niçoise et cinq nuls sur les six derniers matchs.
Et pourtant,
Ouais,
je n'avais
c'est.
pas regardé ces stats-là, mais bon, ouais, je m'attends à. Mais ça sera. Enfin, je pense que ça sera un beau match.
Ok. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il ne faut pas faire? Est-ce que je dois donner mon avis ou
Donne ton avis pour que les pronostics, pour que les gens aient parié contre.
Oh purée. Je t'avouerais que la logique voudrait quand même une victoire niçoise, un petit 1-0, puisque voilà, à domicile, c'est qu'un but pris sur l'ensemble des matchs, donc ça reste quand même assez faible à domicile, donc ouais, moi je vais partir sur 1-0 Nice.
Alors attends, je regarde juste la cote de Reims du coup pour les parieurs. La cote de Reims, elle est à 4,25. Donc après, bon, ceux qui veulent pas prendre trop de risques en mettant 10 euros, c'est 42,50 €. Ceux qui ont vraiment une très grande confiance en Dusty, vous pouvez mettre 100 et c'est 425. Et après, vous pouvez inviter Dusty à dîner.
Allez, c'est noté, c'est acté.
Et
4,25 quand même. Hein.
tous ceux qui ont des Rémois sur MPG, faut les mettre. Là, faut mettre un 11 Rémois sur MPG. C'est bon.
Ils vont tous marquer. Je dis ça parce que j'ai Darami aussi dans mon équipe, mais voilà.
Tu vas pas te faire gagner beaucoup de points par contre.
Allez, on va passer au second match. Un second match qui pour moi devrait être plutôt intéressant parce que on a une équipe de Rennes, bah voilà, qui va enchaîner son troisième match avec Stéphan. Alors. Bien sûr, hein, faut qu'il prenne ses marques. Hein. Rome ne s'est pas fait en un jour, mais c'est quand même quelqu'un qui connaît la maison, qui voilà, qui a quand même une tactique qui est assez établie et qui voilà, qui l'essaye de mettre en place face à un Monaco, ben un Monaco qui a eu certes un peu de difficultés sur les derniers matchs, mais qui se reprend bien, pardon, en ce moment, hein. Donc elle a gagné son dernier match face à Montpellier 2-0, tandis que le Stade Rennais lui a perdu 2-0 contre l'Olympique de Marseille. Mais voilà, sur les derniers matchs, c'est vrai que Monaco, c'est quand même une défaite à Lille, 2-0, une victoire contre le Stade Brestois, un match nul contre Le Havre, une défaite à Paris 5-2, là la victoire 2-0 contre Montpellier. Donc c'est une équipe qui, voilà, qui est en dents de scie depuis 5 matchs. On a vu que Hutter a changé la disposition de sa défense, parce que Monaco, c'est une équipe qui prend beaucoup de buts. Et il est passé de 3 défenseurs à 4 défenseurs. Hein, juste pour vous le rappeler, Monaco a pris 19 buts pour l'instant. Et c'est la 7e pire défense de Ligue 1. Vous, est-ce que c'est quelque chose qui vous séduit, ce changement de défense, passer de 3 défenseurs à 4 défenseurs? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va reproduire sur le long terme, qui peut apporter plus de stabilité à Monaco, sachant que c'est une équipe très offensive? On va commencer par toi, Max. Ce changement tactique défensif, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que bonne idée, mauvaise idée? Dis-moi tout.
Je pense qu'il fallait changer quelque chose parce que c'est vrai que tu l'as dit, Monaco est une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Ils en ont encaissé 19 lors des 14 premières journées, donc ça fait beaucoup pour une équipe du haut de tableau. L'avantage de passer à 4, c'est que les latéraux vont moins monter. Donc c'est un avantage défensif, ça sera un désavantage offensif, ce qui est logique. Mais c'est vrai que du coup, ça va pouvoir permettre quand même sur les phases défensives, notamment quand on a une équipe qui peut aller jouer haut, de pouvoir se resserrer et donc de laisser moins d'espace. Donc je pense qu'il fallait changer quelque chose. Il l'a fait contre Montpellier, ça a payé parce que voilà, victoire 2-0, donc rien à dire. Il faudra le retester, je pense qu'il va le reconduire, parce qu'en plus, ça lui permet de pouvoir mettre. Et devant Akliouche, Minamino, Golovin, qui sont 3 joueurs qui ont prouvé qu'ils avaient la chance de jouer. Donc c'est vraiment une équipe, je trouve, avec ce 4-2-3-1, où là on va avoir des joueurs vraiment défensifs, notamment les 2 milieux de terrain, qui vont justement apporter, on va dire, de la densité au milieu, donc pour pouvoir essayer de ga garder les cages inviolées pour les 90 minutes.
C'est
Du coup,
compliqué.
bah, je vais te lancer dessus, Steve. Est-ce qu'on peut considérer que aujourd'hui, Hutter a assez confiance en ses attaquants pour dire, ok, vous pouvez vous débrouiller tout seul et pour qu'on ait plus de stabilité en défense?
Hutter, en arrivant en France, il a dû entendre l'expression un match de foot, il faut marquer un but de plus que l'adversaire. Parce que sa défense, même à 4, elle est catastrophique, en fait. J'ai regardé le match contre Montpellier tout à l'heure. Si Adams ou Tamari ou même Kazri croquent pas la feuille de match, Monaco perd le match 2-3, voire même 2-4. T'as Adams qui a 2 ou 3 face-à-face qui les loupe. T'as Kazri au lieu de tirer qui fait la passe, qui refait une passe dans l'axe, etc. Tamari, Pan et Singo qui sont battus sur chaque profondeur. Ils sont perdus en fait, ils n'arrivent pas à gérer la profondeur. Donc, est-ce que c'est un problème de Monaco veut trop haut avec des défenseurs assez longs? Donc, du coup, pour les replis défensifs, c'est compliqué. Ou est-ce que c'est juste un problème de les mecs qui sont déjà soit cramés, soit ils savent juste pas gérer une profondeur, quoi. Le seul qui a été bon et qui leur a sauvé les miches pas mal de fois contre Montpellier, c'est Jacobs. Jacobs qui fait un excellent match, que ce soit offensivement comme défensivement. Sans lui et sans Kohn, franchement, le match, s'il finit à 2-4, c'est pas volé, quoi.
Ah, puisque je crois que si je me rappelle, Vanderson, il fait une dinguerie aussi à un moment, il perd le ballon et t'as Kohn
Ouais, c'est ça, ouais. T'as
qui fait
Maripane qui fait une relance en plein dans l'axe. Il fait une Balerdi il y a quelques jours.
c'est vrai
Il fait
aussi.
une
On le
relance, il fait une
sait.
relance dans l'axe. Et derrière, ils arrivent à sauver rapidement le cul. Mais le match, en fait, la défense, même à 4, elle est catastrophique. C'est les mecs, ils savent pas gérer une profondeur, ils savent pas défendre, en fait.
Bah depuis le début de saison, c'est un peu ça. Hein. C'est vrai que Singo, Maripane et il y a aussi Salisu qui joue
Magasa.
toujours pas, mais Magasa qui joue souvent. C'est très compliqué. Vanderson, c'est un très bon latéral offensivement, défensivement, c'est pas ça. Donc moi, je pense que le fait de retourner à 4 va pouvoir permettre à des mecs comme Camara et Zakaria de redescendre pour essayer justement d'aider cette défense qui a du mal. Donc il y aura des choses à changer, mais je pense que ça sera les hommes qu'il faut changer, concrètement parlant. Parce que c'est vrai que ils ont perdu sur l'été dernier, sur la saison dernière, et Badiachil et Disasi. Mais c'est vrai que bah en fait ça a été remplacé, mais pas en qualité malheureusement.
Toi,
Donc
tu fais
le fait de
Danilo.
passer à 4, je pense, va pouvoir vraiment permettre, je pense qu'il compte sur le fait des milieux défensifs qui vont pouvoir se resserrer et de demander à Vanderson de monter un peu moins, même si bon, bah, défensivement c'est compliqué. Et comme tu l'as dit, à Jacobs de faire le travail défensif aussi avant de le faire offensivement. Donc après, c'est une mise en marche aussi, hein. C'est vrai qu'ils n'avaient pas l'habitude du tout de jouer à 4, mais de toute façon, c'est sûr que les deux centraux, ça a énormément de lacunes.
Il va faire
Ok.
une Danilo Pereira, il va te mettre Zakaria DC. Il va jouer à 5 derrière pour essayer de colmater les brèches. Et parce que, ouais, vraiment, c'est Singo et Maripane, c'est pas possible. Là, faut que Monaco, au Mercato, prenne un défenseur central pour essayer d'apporter de la stabilité. Si Hütter se décide à ben maintenant, on va jouer à 4 derrière, on n'a plus le choix parce qu'on prend trop de buts. Il faut un latéral droit et un DC. Parce que sinon, ils vont continuer à prendre 25 buts dans la saison, ça va être terrible pour eux.
C'est triste,
Bah.
c'est que DC, ils en ont recruté en plus. C'est ça le pire.
Ouais,
Ouais, mais ils sont nuls. C'est ça le
C'est que
ce
aller chercher les défenseurs centraux, ben en fait, ils ont été en chercher. Singo, il vient d'arriver. Alors après, il y a Salisu qui était sur le banc contre Montpellier, qui lui a été blessé à peu près tout le début de saison. Donc peut-être que lui donner sa chance à lui, redonner sa chance à Matsima, même si bon, bah, on voit qu'il n'est pas forcément fan du joueur parce que c'est vrai qu'il préfère tout le temps mettre Magasa. Essayer Salisu, je sais pas, mais c'est vrai qu'aller rechercher un def central alors qu'ils ont déjà pris Salisu et Singo, c'est compliqué. Ça fera Maripane, Salisu, Matsima, Singo et Magasa. Ça fera 5 centraux. S'ils en prennent un, ça fait un sixième. Juste pour en avoir un
Après,
de bon, c'est quand même dommage.
t'envoies en prêt ou t'essaies d'exfiltrer un peu les mauvais, mais là, pour l'instant, la défense ne donne pas satisfaction, donc il faut changer un truc. Donc, est-ce que cette nouvelle compo va les aider à se restabiliser parce que à 4 derrière, c'est beaucoup plus stable que qu'à 3, ou est-ce que c'est juste que ben, les hommes sont pas bons en fait? C'est ça la question.
Pour
Je
moi,
pense qu'on
ouais,
a un peu
faudrait
la
payer
réponse là.
Salisu à la limite, hein, parce que c'est vrai qu'il revient, mais bon, faut essayer quelque chose parce que c'est compliqué, ou essayer de remettre un peu Matsima, je sais pas, peut-être qu'il n'est pas en confiance, mais ouais, Singo Maripane, c'est
Parce
porte
que
ouverte là,
après, ils sont quand même tous assez jeunes, hein. Je regarde là, Salisu c'est 24 ans, Singo 22, Maripane, bon, c'est le plus âgé, 29. Magasa 20, Matsima 21, sachant qu'ils ont perdu aussi Caio Henrique, qui, bah, voilà, qui était quand même un bon début de saison. Bon, certes, il était sur le côté gauche, mais voilà, ça peut t'apporter aussi une certaine stabilité. Ouais, ça te fait une défense quand même assez jeune. Hein. Et puis on l'a vu, hein, Magasa, le dernier match qu'il a fait, il me semble qu'il offre un penalty à un moment où il fait une faute un peu stupide. c'est clairement une
Exact.
erreur de jeunesse, quoi. C'est
Exact.
clairement une erreur de jeunesse. Mais après, bon, voilà, il y a ce problème défensif. Est-ce qu'on peut partir du principe que l'attaque, il n'y a plus vraiment de questions à se poser? Aujourd'hui, c'est Golovin, Minamino, allez, Akliouche, Ben Yedder. Balogun n'a pas encore fait ses preuves, donc Balogun, pour l'instant, c'est stand-by sur le banc, tu rentres?
Oui, il faut sortir Balogun. C'est un investissement, mais c'est un investissement qui t'empêche de jouer presque. Il est assez transparent sur le terrain. Et on l'a vu contre Montpellier, tu fais rentrer Wissam, ça marque. Voilà. Enfin, c'est aussi simple que ça. Le football, c'est simple, hein. Suffit de marquer. Balogun ne marque pas, tu fais rentrer Wissam, il marque. Ben, je pense que le débat, il est fini en fait. Wissam a toujours apporté satisfaction à Monaco. Mais il a toujours été, malgré ça, relégué remplaçant ou deuxième attaquant, deuxième choix. Alors que c'est un très grand attaquant, c'est un mec qui a toujours été sérieux, il a toujours été toujours fait ses matchs. Donc ouais, faut sortir Balogun, il faut mettre Wissam Ben Yedder et ça ira bien côté monégasque.
Ok, t'es du même avis, Max?
J'ai toujours été un peu plus Ben Yedder que Balogun. Je trouve que Balogun est un joueur qui était intéressant à Reims. C'est un investissement, c'est sa première saison. Ben Yedder a l'habitude de jouer à Monaco. Chaque fois qu'il est titulaire, chaque fois qu'il rentre, il est performant. Donc moi, je vois pas pourquoi il ne serait pas titulaire, sachant que derrière, justement, s'il y en a trois pour lui donner de bons ballons. Ça va être quand même très intéressant pour Monaco. L'année dernière, Ben Yedder, c'est 19 buts en championnat. Ben, c'est quand même une belle saison. Et l'année d'avant, c'est 25, rien qu'en Ligue 1. Donc, je pense que Ben Yedder, il a prouvé que c'était un attaquant de haut niveau. Donc, faut lui laisser justement sa chance. À la limite, c'est bien parce qu'il aime bien être en concurrence parce que justement, c'est là où il prouve. Aussi.
C'est
Il
vrai.
prouve qu'il est bon. Avoir un Balogun derrière qui vient le titiller, le coach le met remplaçant pour mettre Balogun, au moins Ben Yedder rentre, il marque comme l'a dit Steve. Donc pour moi, il mérite sa place d'être titulaire. Et à la limite, Balogun peut rentrer pour essayer justement de creuser l'écart quand il en aura l'occasion. Mais
OK.
c'est ton capitaine, il faut respecter aussi, tu vois. Le mec, ça fait je sais pas combien d'années qu'il est là, il connaît l'effectif, il connaît Golovin, il sait comment Golovin va jouer, s'il va le lancer ou non. Voilà, le mec, faut le laisser jouer. Enfin, faut arrêter de le rétrograder toujours au deuxième, voire troisième plan, au deuxième, troisième choix. C'est un très bon attaquant, il marque toujours ses buts, il est toujours performant, il est respectueux, il est sérieux. Faut arrêter toujours de le reléguer au deuxième plan, tu vois.
OK.
Sur
Alors,
les 4 dernières saisons, c'est au minimum 18 buts marqués en Ligue 1.
ouais, il a une belle moyenne, quoi. Enfin, pour
18, 19, 20, 22, c'est énorme.
c'est un
C'est
très
énorme
bon
pour un attaquant.
attaquant, quoi. Je pense que même dans n'importe quel championnat, si t'as ton attaquant qui te met au minimum 18 buts par saison, l'un de tes attaquants, t'es quand même plutôt content, quoi. Au niveau
Et
des.
même à Paris, l'attaquant de pointe ne fera pas ça cette année.
Commence pas, toi, me chauffe pas.
Lance un débat.
Et donc du coup, Monaco, ils vont rencontrer le Stade Rennais. Donc le Stade Rennais, le Stade Rennais, ils avaient fait un bon premier match face au, enfin le Stade Rennais version Stéphan, hein, bien sûr. Je m'entends. Ils avaient fait déjà un bon premier match face au Stade de Reims. Hein. Je les avais trouvés plutôt impressionnants dans leur production du jeu, la nouvelle utilisation de cette formation avec du coup trois défenseurs, deux latéraux qui étaient très hauts pour apporter et puis surtout ces deux numéro 10 qui étaient, il me semble, Guiri et Terrier. Contre Reims, si je me trompe pas. Là, ils ont affronté Marseille, ils ont perdu 2-0 contre Marseille. Alors, mérité, pas mérité, Marseille a eu, on peut leur donner en tout cas le crédit d'avoir été efficace et d'avoir fait le job. Rennes, beaucoup moins. Je trouve que Rennes a toujours ce problème, en fait. Alors, dites-moi si je me trompe, mais je trouve que là, Rennes a ce problème de pointe. Qui doit jouer en pointe? Alors, En Coupe d'Europe, on a vu que c'était Yıldırım, si je me prononce correctement, qui a d'ailleurs marqué.
Yıldırım.
D'ailleurs, Yıldırım, d'ailleurs, bien joué, Max, pour Reiner, qui a aussi marqué en Europe, et tu l'avais cité au précédent podcast. Tu connais ton club, bravo, bravo.
Tu vois.
Mais du coup, je vais te lancer là-dessus. Est-ce que finalement, maintenant, le problème de Rennes, c'est la pointe? Parce que Kalimuendo ne marque pas. Terrier, voilà, joue plus en milieu offensif avec Guiri. Sinon, c'est Yıldırım. Salah, lui, c'est plus sur un côté. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de pointe au Stade Rennais?
Ben oui, c'est vrai que c'est compliqué en ce moment offensivement à Rennes. Il y avait le problème défensif, il y a le problème offensif. Depuis le début de saison, on va dire que c'est deux problèmes, hein, parce que là on voit Rennes qui est 12e, 19 buts marqués, 19 encaissés, mais c'est vrai que c'est un peu comme à Reims, hein. C'est vrai que c'est pas forcément les attaquants qui vont marquer. Donc c'est un peu compliqué, on n'a pas de joueur qui performe offensivement. Donc Kalimuendo malheureusement ne répond pas forcément très présent. Guiri quand il est sur le côté, ça va, c'était Salah qui marquait, mais c'est vrai qu'avec le changement de tactique, ça sera plus compliqué pour lui de jouer. Donc le retour de Terrier peut être intéressant. Mais entre guillemets, la seule pointe, enfin les seules pointes qu'il y a sont Kalimuendo et Yıldırım. On sait qu'ils peuvent mettre Terrier et Guiri, mais ce ne sont pas vraiment des purs neufs.
Ouais, mais complètement. Et puis on a l'impression, enfin moi j'ai été déjà content de revoir Terrier sur les terrains. C'est quand même un joueur qui a quand même beaucoup de talent pour la Ligue 1, et clairement c'est pas des joueurs que tu mets en pointe. En tout cas ils ont pas ces qualités-là. Toi, Steve, tu en penses quoi, voilà, cette animation offensive du Stade Rennais? Tu penses que enfin dans l'état dans lequel elle est actuellement, elle peut mettre en danger cette défense monégasque, qui est aussi très fébrile.
Là, je pense qu'à l'heure actuelle, une équipe de Ligue 2 peut mettre en danger défensivement Monaco. Donc, je pense que le Rennes de Julien Stéphane n'aura pas trop de soucis à se faire à ce sujet-là. Mais comme on l'a dit, ouais, le problème à Rennes, principalement, c'est la pointe. Tu as beaucoup de joueurs, on en parlait off-podcast la semaine dernière. Tu as beaucoup de joueurs qui peuvent jouer en pointe, mais qui ne sont pas des vraies pointes. Même si Terrier a des statistiques folles. Le mec, il marquait but sur but avant sa grosse blessure au ligament croisé. Mais le mec, c'est pas un neuf. T'as recruté un neuf, Arnaud Galiwendo, qui ne marque pas, qui est un peu perdu devant le but, qui est un peu perdu. On l'a vu contre Marseille, il est rentré, il a tenté des frappes de loin, il a tenté des trucs un peu acrobatiques, etc. Simple mec, genre t'es buteur, t'es pas numéro 10, joue simple, essaie de marquer des buts et fais gagner ton équipe. Faut résoudre ce problème de neuf, faut redonner la confiance à Kalimuendo qui est un joueur de talent. On l'a vu à Lens, ce mec s'est joué au football, s'est marqué des buts. Terrier peut assumer l'intérim, je pense, ou Guiri peut assumer l'intérim à ce poste-là, mais ouais, faudra rapidement résoudre le problème, monsieur Stéphane.
Ouais, puisque même Kalimuendo, ça commence à faire 2 saisons où on en attend beaucoup plus de lui. Certes, il a fait une bonne saison à Lens, mais là, à Rennes, je trouve que c'est quand même poussif. Et moi, le second problème que je souhaitais aussi discuter avec vous, c'est côté défensif à Rennes. On a vu que Wu expulsé, bon, il a fait un match catastrophique face à Rennes. Face pardon à Marseille, il sera pas présent ce week-end face à Monaco. C'est une défense à 3, alors qu'on était plus sur une défense à 4, si je me trompe pas, avec Pep Genesio. Donc on a une défense pareil, si je me trompe pas, qui est composée, en tout cas qui était composée, parce que Wu ne sera pas présent. Tac tac tac. Donc t'avais contre Marseille, c'était Wu,
Bélossian était.
Bélossian et Théâtre. Bon, on sait que Bélossian n'est pas amené à être titulaire. Tu confirmes, Max, ou tu penses qu'il peut créer sa place parmi les trois?
Bah, disons que je pense que sur le prochain match, il va jouer dans tous les cas, parce que Wu ne va pas jouer. Donc du coup, ça sera une défense avec Théâtre Marie. Après, ça va être une concurrence à 4 pour 3 postes. Donc c'est pas trop, hein, parce que c'est vrai que 4 pour 3 postes, c'est totalement logique. Bélossian est encore jeune, hein, c'est un très jeune joueur. Donc je trouve que Wu, qui était totalement en manque de temps de jeu parce qu'il ne jouait pas du tout avec Genesio, bah, il enchaîne plutôt, donc c'est compliqué pour lui. Omari revient d'une grosse blessure quand même, faut pas l'oublier. Donc je pense que Bélossian fera des matchs parce que il y a deux joueurs qui sont en manque de rythme, parce qu'ils sont uniquement en début de saison pour vous et pour Omari. Donc je pense que Bélossian fera certains matchs quand il y en aura un de suspendu parce que Théâtre prend beaucoup de cartons jaunes aussi. Quand il y aura des petits pépins physiques, une remise en forme, on va dire, de certains. Donc, ça va tourner entre les quatre.
D'ailleurs, Matic sera absent aussi. Il sera absent aussi contre Monaco. Tu penses que c'est quelque chose qui va peser dans le jeu rennais, ça aussi, dans le jeu rennais, pardon, ça aussi. On pourrait, voilà, s'attendre à un Lefebvre peut-être plus bas dans le jeu à côté d'un Santa Maria. Tu imagines quoi comme compo pardon avec ces enfin on va commencer par toi Max et puis après je vais te demander toi Steve mais toi tu t'imagines quoi comme compo du coup avec tous ces absents côté rennais?
C'est sûr que le fait d'avoir Matic qui ne jouera pas, c'est compliqué parce que Matic, c'est vraiment la plaque tournante de Rennes. On l'a vu contre Marseille, c'était Matic avec Santa Maria. Mais je pense que cette fois-ci, Santa Maria jouera encore titulaire, mais avec Lefebvre, voilà, plus bas. Parce que c'est vrai que sur le match de Reims, on était avec Matic Lefebvre. On avait Matic Lefebvre et on avait devant Terrier Guiri et Kalimuendo en pointe. Je pense qu'il va repartir là-dessus parce que c'est vrai que il y a cette possibilité de pouvoir aller jouer et marquer des buts à Monaco. Ils en ont conscience. Donc je pense que Terrier va redescendre pour être avec Matic au milieu de terrain parce que je les vois pas mettre un Blas aussi bas. Je les vois pas mettre Raider titulaire de suite. Donc je m'attends à Lefebvre Matic. Et offensivement, Guiri, Terrier, Kalimuendo.
Ok. Et toi, Steve?
Et juste, Théâtre, il sera disponible ou pas finalement? Parce que j'ai pas vu passer l'info. Il est
Normalement, il est
sorti contre
dispo.
Marseille. Et il était peut-être assez incertain d'après Julien Stéphane. Donc est-ce que c'est de la com ou pas? T'as entendu des choses, Max, à ce sujet?
Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je vous avoue que j'ai pas regardé la fin du match. Donc je ne sais pas du tout s'il va jouer. J'espère, parce que c'est vrai que s'il ne joue pas. Là
Du coup, t'as
derrière,
deux problèmes en fait. Du coup,
ça sera des très jeunes. Ça sera.
du coup, si je joue pas, c'est Omari, Bélossian et possiblement soit Doué,
C'est
soit
possible de
Jabier
mettre
ou
Doué,
Jawad.
mais ça sera sans doute, je pense, Jawab. Parce que c'est vrai que Jawab a vraiment l'habitude d'être central. Doué a plus l'habitude de jouer. Mais ça serait compliqué de le mettre, je pense, à ce poste-là. Après, dans une défense à 3, c'est possible. Donc, ça se jouera, je pense, entre Doué et Jawab. Je pense pas qu'ils mettent Jacquet, parce que c'est vrai que d'avoir Ebélossi en 2005 et Jacquet 2005 à côté d'Omari, là, ça ferait une défense vraiment très, 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 très jeune. Et je pense pas qu'ils prennent ce risque-là face à une attaque de Marseille aussi, de Monaco, pardon,
Non.
aussi. Si forte.
Du coup, toi, Steve, tes prédictions, pronos, attentes de ce match?
Bah, ça va être un très bon match hein, parce qu'on a deux équipes très joueuses. Les équipes de Julien Stéphan sont toujours assez joueuses et c'est toujours un plaisir à regarder ces équipes. Donc, du coup, je m'attends à un très beau match de football. Et si je donne un pronostic. Je dirais un nul, mais un beau nul. 2-2 ou un truc, tu sais, un match avec des buts, quoi.
Ok, c'est ça, c'est le week-end des nuls là, pour vous là. Premier match 1-1 pour toi, là deux encore. Non, on fait pas de nuls,
Après,
c'est fini.
quand c'est deux belles équipes, c'est compliqué de dire ouais, celle-ci va rouler sur l'autre.
C'est
Donc le nul, c'est la facilité.
vrai. Ok, et toi Max?
Moi, je vois Monaco gagner parce que c'est vrai que Monaco a quand même une très belle attaque et justement, il va y avoir une défense remaniée face à Rennes et que Rennes a des problèmes offensifs. Donc, j'hésite entre 2-0 et 2-1. Je vais dire 2-1 parce que Monaco a vraiment une mauvaise défense, mais dans ma tête, je me garde le 2-0 possible pour Monaco. Mais
Ok.
je dirais 2-1 avec un but de Ben Yedder. Un but de. Qui est-ce que je vais dire pour Monaco? Ben Yedder et Minamino. Et pour Rennes, Terrier.
Ok, c'est précis tout ça. Pas mal. Moi, je t'avoue que je vais te suivre aussi sur ton prono dans le sens où je vois Monaco gagner. Je pense qu'ils sont quand même un peu plus. Ils sont ouais sur une meilleure dynamique et surtout s'ils veulent voilà rester au contact des leaders que ce soit le PSG ou Nice, faut qu'ils gagnent. D'autant plus que Nice voudra aussi aller chercher la victoire. Donc moi, je verrais même un 3-1 monégasque. Ouais, un 3-1 monégasque. Ouais. Bon, on verra bien. On va passer au sujet d'actualité. Alors, c'est un sujet qui, un petit sujet coup de gueule qui m'a un peu saoulé, puisque j'ai vu que les supporters lensois étaient interdits de déplacement à Montpellier. Alors, c'est vrai qu'il y a certains supporters, voilà, c'est compliqué. On a vu ce qui s'est passé dans différents endroits. Récemment, voilà, il y a eu les problèmes autour du stade Vélodrome. Les supporters lensois, et puis il y a eu le problème aussi à Nantes avec les supporters nantais, dont un a été poignardé. Les supporters lensois sont pas forcément connus pour être des supporters très extravagants, pardon, qui foutent le bordel. Mais encore une fois, on a des supporters qui se déplaceront pas. Je pense que c'est dommage pour le spectacle. C'est dommage pour la Ligue 1. C'est quelque chose qu'on apprécie. Donc moi, c'est un petit coup de gueule, en fait, de ce manque de clarté qui puisse exister. Et j'ai l'impression que tout le monde se tire dessus. Personne n'essaie de trouver des solutions. Je sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez un peu de cette situation bah qui va être amenée à se répéter, j'ai l'impression. Je sais pas, on va commencer par toi, Max.
Ben, je trouve que ouais, on va le voir de plus en plus, hein, j'ai l'impression, et on le voit déjà de plus en plus. Mais la majorité des supporters seront interdits de déplacement parce que malheureusement certains vont causer des troubles dans les villes. Donc pour éviter que ça se passe mal, ben ils préfèrent malheureusement annuler plutôt que d'avoir affaire à des rixes ou autres. Donc c'est dommage parce que c'est vrai que c'est pas ce qu'on aime voir du sport. On aime voir justement de l'ambiance, de l'animosité, mais de la positivité, même si les supporters ont le droit de se charrier entre eux, de se taquiner, tout ça. On aime ça. L'échange entre supporters, ça fait partie du sport. C'est aussi pour ça que le football est populaire. Mais c'est vrai que de tout interdire, c'est pas la solution, mais entre guillemets, c'est une solution qu'ils ont trouvée pour éviter les problèmes. Donc
Ouais, c'est
compliqué, mais
principalement le truc politique, quoi. C'est principalement une réponse politique à un événement qui est arrivé lors de Nantes-Nice, pardon. C'est une réponse politique parce qu'il faut bien interdire les gens, parce que après ça donne une mauvaise image, parce que faut éviter les problèmes, faut éviter les blessés, faut éviter tout ça. Mais c'est, comme tu l'as dit, ça impute un peu du spectacle qu'est le football, parce que c'est beau de voir des parcages visiteurs pleins. Ça fait une bonne ambiance, on entend les chants à la télé, c'est intéressant. C'est dommage. D'après les infos que j'avais vu passer à ce sujet hier, il y aurait une décision et une rencontre des parties prenantes. Donc les préfets et le gouvernement devraient se rencontrer en début janvier pour décider de comment on gère les déplacements adverses. Dans certains pays de l'Est, tous les déplacements sont autorisés, sont encadrés par la police. Il n'y a pas de problème plus que ça, même si forcément il y en a certains. Mais en France, on ne sait pas encadrer le déplacement d'un Lorient-Marseille qui est classé à risque. On ne sait pas encadrer un Nantes-Nice qui ne sont même pas des clubs qui ont vraiment des grosses rivalités. On les classe à risque juste parce que c'est simple et au moins un arrêté, il n'y a pas de problème et tout va bien. C'est un peu dommage, ça enlève de la beauté du sport, ça enlève un peu du populisme du sport. Et bah, c'est juste une situation qui trophique.
Ouais, mais
Bah, de toute façon,
ouais,
ils mettent des
à
noms,
qui la.
j'arrive, entre guillemets. Hein. C'est vrai que, désolé de Steam, mais c'est vrai que.
Non, mais pas du tout, non, mais c'est à qui la faute, tu vois, dans ce genre de situation, en fait. Moi, c'est ça que j'ai du mal à comprendre, c'est que
Bah,
il y a
à
des
des villes qui mettent des
pays.
coups de marteau à des.
Ouais, mais tu vois, il y a des
C'est
pays
ça.
où les supporters sont tout aussi chauds. Tu vois, en Italie, les supporters, ils sont chauds bouillants, pourtant, ils se déplacent. Dans les certains pays de l'Est, en Pologne, on l'a vu, les supporters ils se déplacent. Enfin, est-ce que
Pas de
c'est les
drame, il n'y a
clubs?
peut-être pas de drame comme en France.
Ouais.
Après, je sais pas, j'ai pas suivi, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu
Après.
forcément de mort en Italie ou autre. Oui, il y a de l'animosité, mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a un drame, c'est compliqué. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il faut tout interdire? Je suis pas sûr que ça soit la solution. Hein.
En fait, là, il faut une volonté politique ou une volonté populaire de bah, moyens. Parce que c'est sûr que le déplacement de supporters de Marseille jusqu'à Lorient ou de Nice jusqu'à Nantes, il y a des coûts pour le contribuable, il y a des coûts pour tout ça, parce que faut la police, faut tout ça. Donc forcément, il y a des coûts derrière. Mais ça fait partie du football, ça fait partie de la beauté du foot, que de voir des supporters faire 300 km pour supporter leur équipe un samedi soir en plein décembre. Donc c'est très dommage, mais c'est sûr que du moment qu'en France on aura des débiles qui mettent des coups de marteau à des gens juste avant un match de foot ou pour revenir sur Marseille-Lyon qui balancent des pavés dans la tête des entraîneurs, on aura des coups de passement et c'est sans prendre qu'à nous-mêmes.
Ah, mais c'est pas aussi les clubs du coup qui doivent pas aussi faire quelque chose pour pour éliminer un peu cette vermine de leurs supporters. Enfin, là tu parlais de Marseille. Certes, ça se passe à l'extérieur du stade. Alors oui, on peut dire que le club n'est pas concerné un truc comme ça, mais c'est des supporters marseillais. On sait que les mecs derrière, ils vont au stade. On voyait les supporters lyonnais qui étaient dans le stade. T'es là, qui sont en train de tendre des bras. Enfin, t'as des signes nazis ou des choses comme ça. Ça fait partie de tes supporters. Est-ce que le club aussi, à un moment, il doit pas dire, eh, ok, c'est bon, commence à faire le ménage. Tant pis si on perd certains de nos mecs qui sont fans, parce que ça reste quand même des vies de foot. Mais au moins, on fait le ménage pour avoir du spectacle, quoi. Est-ce que les clubs, ils doivent pas aussi faire un peu leur introspection et nettoyer devant leur porte, quoi.
Ah si. Et petit à
Il
petit,
devrait.
j'espère qu'ils
Il
le
devrait.
font et ils commencent déjà à le faire un petit peu. Les mecs qui sont vus en train de faire des signes nazis ou faire des cris de singe ou je sais pas, ces mecs-là derrière ils sont interdits, ils prennent des ITS, ils prennent des choses comme ça. Donc c'est sûr que c'est pas toujours facile d'identifier qui l'a fait parce que suffit que le mec mette une cagoule et après du coup t'as du mal à savoir qui l'a fait et qui fait quoi. Les clubs, faut qu'ils prennent aussi la responsabilité de. Ben c'est mon supporter qui a fait ça. Voilà, à un moment, il faut que le club punisse le supporter et que le club mette comment dire, mette devant le fait accompli les capos des ultras, etc., pour faire cesser la fin de la récréation, en fait.
Je te laisse le mot de fin, Maxime.
Dans certains clubs, il y a des personnes justement qui sont là pour la relation avec les supporters. Donc, c'est à ces personnes-là de justement. Faire entendre que s'il arrive un problème dans le stade, de la part d'un supporter du club, il y aura des sanctions qui seront prises par le club. Et en changeant ces choses-là et en faisant comprendre que, en fonction de ce qui peut se passer, il y aura des conséquences. Peut-être que certains deux fois avant de faire ce qu'ils veulent faire. Donc après, j'espère pas qu'il y aura d'autres drames comme on l'a vu. Mais c'est vrai que il y a souvent des problèmes, donc c'est dommageable pour le sport.
Eh bien, merci sur ces belles paroles. Je vous remercie de m'avoir accompagné pour parler de cette 15e journée de Ligue 1 et ces deux beaux matchs qui nous attendent, car je suis sûr que ça va être deux très très beaux matchs. Merci à vous de nous écouter en espérant que nos analyses vous ont aidé à trouver voilà, les meilleures combinaisons pour ce week-end. On vous souhaite un très bon week-end de foot. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Instagram, ou encore sur l'ensemble des plateformes audio telles que Spotify, Apple Music ou encore Deezer. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Stadium Ligue 1. En attendant, passez un très bon week-end de foot sur le meilleur championnat d'Europe, du monde et de la galaxie.
Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.